Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Alors Antiquissimo, vous le savez, s'est déplacé à Arles, ça n'est pas très loin de chez nous, Nîmes, et des occasions culturelles, il y en a beaucoup à Arles. Cette année, en ce début du mois de novembre, je retrouve Atlas qui organise les assises de la traduction littéraire. Il y a autour de cette traduction littéraire une activité énorme et pour l'occasion ici, en ce dimanche matin, très calme, puisque là nous sommes avant l'ouverture de l'événement, je rencontre Daniel, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, mais il va me corriger, Loisa. Est-ce que c'est comme ça que l'on dit ?
C'est très bien.
Bon, vous n'êtes pas contrariant ?
Pas du tout.
Bon. De toute façon, on est tellement bien au Musée Bleu qu'on n'a pas envie du tout d'être contrarié, c'est pas du tout l'occasion. Donc là, aujourd'hui, en ce dimanche matin, début novembre, vous êtes venu présenter un atelier, on va en dire un petit mot tout à l'heure, mais d'abord moi j'aimerais vous présenter vous, donner à nos auditeurs une idée du personnage assez multiple que vous êtes, si j'ai bien lu, nous ne connaissions pas, mais j'ai regardé un petit peu bien sûr, comme tout le monde sur Wikipédia, votre parcours. Vous êtes normalien et vous êtes agrégé de lettres classiques, ce qui vous rend à mes yeux éminemment sympathique déjà.
Bon.
Mais c'est déjà une chose. Mais vous n'êtes pas que intéressé par les lettres classiques, puisque je vois que, bien sûr, vous avez pas mal commis de traductions de grec ancien, mais vous intéressez aussi à l'anglais, à l'allemand. Vous êtes de ces gens qui considèrent à juste titre que le latin et le grec peut-être ouvrent à tout et mènent à tout. Et vous avez aussi, c'est pas du tout contradictoire, de l'intérêt pour la philosophie. Tout ça, ça fait bon ménage. J'ajouterai une dernière chose et après vous allez compléter vous-même parce que nous ne sommes même pas salués, donc déjà je rectifie ceci, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et vous êtes aussi intéressé au théâtre et je crois même que c'est quelque chose qui vous prend pas mal ces temps-ci.
Le théâtre me prend pas mal de temps, il m'a pris pas mal de temps, il m'a pris plus du tiers de ma vie et j'espère que ce n'est pas prêt de s'arrêter, oui. J'ai travaillé 25 ans au théâtre de l'Odéon, où j'étais détaché auprès du ministère de la Culture en qualité de conseiller artistique. Alors, les deux mots pris séparément ne veulent rien dire dans un théâtre comme celui de l'Odéon. Les artistes et les directeurs n'ont pas vraiment besoin de conseils, et surtout pas de conseils artistiques. Mais il fallait bien mettre quelque chose sur la porte. En fait, j'étais un peu l'homme à tout faire en matière textuelle, littéraire, et dès qu'il y avait une question de communication écrite à régler, on pouvait faire appel à moi. Ça allait de la rédaction des programmes à la relecture des sources, des surtitres par exemple, ce genre de choses, et à la traduction parfois de textes. Le théâtre de l'Europe, comme son nom l'indique, était quand même censé être un carrefour d'accueil de créateurs venus d'horizons parfois très lointains. Et donc, on avait parfois besoin de quelqu'un qui pouvait communiquer en différentes langues ou traduire sans trop de difficultés.
Donc, traduire, créer des textes.
Voilà, ça pouvait être. Ça pouvait aussi bien être traduire un courriel en allemand qui venait de la Schaubühne, ou un message en italien qui venait du Piccolo Teatro. Voilà, enfin, que de rédiger à son tour, ben là, bon, évidemment, dans l'autre sens, hein, dans le sens thème, comme on sait, c'est toujours plus difficile que dans le sens version. Là, pour le thème, je me contentais généralement d'écrire en anglais, éventuellement en espagnol, en français, bien entendu, c'est ma langue maternelle. Voilà, et donc, évidemment, j'ai travaillé 25 ans dans un théâtre, et j'ai aussi donc travaillé, non pas seulement pour l'institution, mais pour les artistes, dont Georges Lavaudan. Voilà, c'est lui qui m'avait mis le pied à l'étrier, c'est resté un ami, on travaille toujours ensemble. On vient de commencer, Joe, je l'appelle comme ça, vient de commencer ses répétitions du Tartuffe. Qu'est-ce que je raconte ? Du misanthrope.
Bon.
Voilà.
Et ce sera alors, c'est vraiment bien. Impressionnant. Et comme je le disais tout à l'heure en préambule, tout ça, ça fait partie d'un tout, hein, l'intérêt pour la culture et l'être humain, tout simplement. J'ajouterais, et pour terminer cette rapide présentation, que si je suis bien renseignée, vous êtes aussi professeur en classe préparatoire, c'est bien ça.
C'est bien ça.
Alors, quelle place ça va tenir le grec dans ces classes préparatoires scientifiques ?
Alors, j'ai été professeur en classe préparatoire scientifique. Je ne suis plus en classe préparatoire scientifique, mais littéraire maintenant.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai enseigné effectivement ce qu'on appelle le français philo en classe scientifique de 3 ans. Mais maintenant, je suis bel et bien en classe prépa littéraire. Ben, le grec, malheureusement, non, je ne suis plus à Louis-le-Grand. Maintenant, je suis à Chaptal et à Hélène Boucher.
D'accord.
Et le grec, je l'enseigne. Par contre, le grec, c'était la petite condition que j'avais fixée à Jo quand même quand il m'a proposé de travailler à l'Odéon en 96. Je lui ai dit, écoute, je viendrai à plein temps pour toi. Il n'y a pas de souci, je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de me réserver 4 heures par semaine pour pouvoir continuer à dispenser mon petit enseignement, une petite charge de grec en prépa, en cagne, dans une cagne privée, hein, Sainte-Marie de Neuilly, pour ne pas la nommer. Jo a accepté. Et donc, j'enseigne le grec en prépa depuis maintenant quelques années, puisque j'ai commencé en 1988.
D'accord. Voilà. Alors, sachez que moi, j'ai été élève à Louis-le-Grand en prépa, mais ça fait déjà un petit moment.
Ah, comme moi.
Ah, oui,
j'étais en prépa à Louis-le-Grand.
Ah, ben ça, c'est marrant.
Ouais.
Donc oui, Hippocane, Cagne, voilà. Et nous voici toujours au milieu des livres, puisque l'interview a lieu dans une salle extraordinaire de travail où vous allez donc, d'ici quelques minutes, proposer un atelier. Alors d'abord, avant de parler de cet atelier, votre formation de petit garçon, est-ce que vous avez été à l'école toujours attiré par les textes et les textes anciens ?
J'ai toujours été attiré par tous les textes, ça oui. Je suis dans une famille de liseurs, même pas des lecteurs, des liseurs. Mmh. On a toujours croulé sous les livres et on a toujours parlé en plusieurs langues. Voilà, mon père était traducteur lui aussi, auteur et traducteur, Luis Loaysa. Il n'a pas été traduit en français. Moi j'ai traduit une fois un texte de lui pour son anniversaire. Voilà, parce que je n'avais pas de quoi lui payer un cadeau. Il était content, mais c'est resté inédit en français. On ne parlait pas de traduction à la maison, par contre, mais on pouvait passer d'une langue à l'autre. Et il y avait des livres en plusieurs langues dans les bibliothèques. Voilà. Comme par ailleurs, mon père travaillait pour les Nations Unies. On a voyagé, alors que j'étais petit. On a vécu au Pérou, aux États-Unis, en Suisse. J'ai grandi en Suisse, j'ai passé la... J'ai fait mes études secondaires là-bas, je n'ai pas le bac, donc j'ai la matu, comme on dit là-bas, la maturité. Et donc, je ne suis venu en France qu'à 20 ans, avec déjà 3 langues pratiquées quotidiennement à mon actif, l'espagnol, le français et l'anglais.
Et l'allemand apparemment aussi.
Alors l'allemand, effectivement, en Suisse, on le prend très au sérieux et on l'enseigne assez scrupuleusement dès le secondaire, dès ce qu'on appelle en France le collège. Donc effectivement... l'allemand. Mais l'allemand, je n'ai jamais vécu en terre germanophone, malheureusement. Mais bon, avec trois langues vivantes, évidemment, et le latin, puis le grec, ça
fait un fond important.
Oui, c'est une sorte de panoplie, comme ça. Et ça n'a pas demandé trop d'efforts, puisque voilà, la diversité des langues et le goût des grammaires, ça m'est venu un peu naturellement.
Et alors, vous disiez qu'à table, on parlait plusieurs langues. Je suis très intriguée. Qu'est-ce qui motivait le passage d'une langue à une autre ?
Ben, ça peut être le sujet dont on traite. Si on parle du Pérou, on va plutôt parler en espagnol. Ça peut être le...
Et votre père était de quelle origine ?
Il est péruvien.
Péruvien.
Enfin, il était péruvien.
D'accord.
Voilà. Loaysa.
Ouais. D'accord.
C'est un nom qui est assez répandu en Amérique latine, au Pérou, en tout cas, et au Mexique. Même s'il est plutôt rare en France, bizarrement. Enfin bon. Et non, ça peut être le sujet, ça peut être l'atmosphère, le climat émotionnel. Voilà. Ma mère seule nous parlait plutôt français, c'est sa langue maternelle, mais comme mon père était à la maison, on pouvait passer à l'espagnol. Voilà. Glisser vers l'anglais si on se mettait à discuter d'un film qu'on venait de voir, d'un film américain. Voilà.
Donc ça se faisait naturellement, c'était pas un objectif non, scolaire, ou ça n'avait rien à voir, bon, c'était une familiarité.
Ma mère a toujours veillé à ce qu'on préserve les langues vivantes menacées par les circonstances. Quand on a déménagé de New York à Genève, elle a veillé à ce que nous continuions à lire en anglais et à parler anglais, à pratiquer l'anglais, y compris avec des professeurs particuliers, pour éviter que les adolescents un peu turbulents que nous étions, mon frère et moi, ne perdions trop le contact. À l'époque, n'est-ce pas, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de séries télévisées avec surtitres ou sous-titres dans toutes les langues du monde. Aujourd'hui, on a un matériel extraordinaire oui. pour pratiquer les langues. Mmh. Voilà, et du coup, mes filles ont pu apprendre l'espagnol et l'anglais sans avoir vécu en pays hispanophone ou anglophone comme moi, mais grâce aux technologies nouvelles. Voilà.
Alors justement, vous avez devancé ma question. Donc, votre frère, toute la famille était, j'allais dire, comme vous, versée dans toutes ces langues. Votre frère en a fait aussi son métier ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Il a passé une matu classique, lui aussi. Donc, lui aussi, latiniste et helléniste, mais il a 5 ans de moins que moi. Il s'est réorienté après la matu vers les disciplines scientifiques. Et maintenant, mon frère est professeur à l'université de New York. Voilà, mais sa spécialité, si j'ai bien compris, c'est la génétique. Voilà. La génétique, et qu'il travaille au niveau moléculaire. Voilà. Sa spécialité, c'est ce qu'on appelle les télomères. Heureusement, grâce aux Grecs, ça, je comprends.
Et alors, et vos filles ?
Ah, bah là, elles sont en pleines études. Sybille est à Angoulême. Elle est dans une école qui s'appelle l'EMCA, l'école des métiers du cinéma d'animation. C'est une visuelle, une dessinatrice. Elle se passionne pour l'image. Voilà. Et Flora, elle a passé déjà une licence d'espagnol. Et donc, elle a en Sorbonne. Elle voudrait bien basculer vers la médecine. Mais ça s'avère malheureusement assez difficile en France de basculer vers la médecine. On vous fait miroiter, semble-t-il, des formations passerelles qui permettent de glisser à certaines conditions des études littéraires, par exemple, vers des études plus scientifiques, que sont les études de médecine, mais apparemment, les conditions à remplir, non seulement varient d'année en année, mais sont appliquées de façon arbitraire, assez arbitraire, voilà. Ma fille commence à en avoir un peu assez, je peux la comprendre. Mmh. Voilà, donc... Affaire à suivre.
Alors nous aussi, affaire à suivre avec ces assises de la traduction littéraire et cet atelier qui va commencer dans quelques minutes. Comment est née cette idée de cet atelier ? Vous avez, je crois, choisi Sophocle, vous allez en parler après. Et comment ça va se passer ? Trois questions assez vastes.
Oui, c'est trois questions assez vastes. Bon, pour la première, la réponse ne m'appartient pas. Il faudrait la demander à un membre de l'Atlas. Je ne sais pas qui a eu cette idée de l'atelier de pratique littéraire. C'est une belle idée, en tout cas. Les traducteurs sont des gens qui, souvent, ont des tas d'anecdotes à raconter sur le sens d'une phrase, sur les malentendus des opilants qui peuvent se produire, sur leur tourment à l'égard de la fidélité au texte, etc., etc. Mais l'idée de faire mettre leurs lecteurs ou des personnes qui ne sont pas du sérail,
voilà, parce pas, que l'idée leur c'est la que l'atelier n'est pas du tout destiné à des professionnels,
non.
C'est tout l'inverse.
Ah bah oui, bien sûr, non seulement ce ne sont pas des professionnels de la traduction, mais ce sont des gens qui ne connaissent même pas la langue, qui vont découvrir un peu de la saveur de la langue en question au cours de l'atelier. J'avais déjà fait ça il y a quelques années, toujours à l'invitation de l'Atlas. Le thème, c'était l'amour cette année-là, et ça avait pris Sappho, voilà, parce que voilà, c'est quand même les plus vieux poèmes d'amour qu'on ait conservés, tout simplement. Je ne me rappelle pas du tout comment je m'y étais pris et comment ça s'était passé, mais j'en ai gardé un très très bon souvenir. Tout le reste, je l'ai à peu près oublié, et donc je ne pourrais pas m'appuyer sur mon expérience pour Sophocle tout à l'heure. Je ne sais pas du tout comment ça se passera. Ce que je sais, c'est que j'ai préparé un texte sur lequel on pourra travailler, un extrait de l'Ajax de Sophocle, vers par vers sous le texte grec, il
alors
y a
le
d'abord...
Le texte sera à peu près combien de lignes?
Une quarantaine de vers.
D'accord.
Une quarantaine de vers, les 40 derniers vers du prologue.
D'accord.
Du prologue de l'Ajax de Sophocle, qui est peut-être la pièce la plus ancienne de lui que l'on ait conservée. Voilà. Et c'est un prologue qui est génial. Voilà, c'est un extraordinaire prologue qui est une leçon de théâtre remarquable. Et et comme le thème de cette année, ce n'est plus l'amour, mais le dialogue, il m'a semblé que pour illustrer les questions de dialogue en traduction du grec, plutôt que de puiser chez Platon, qui a été déjà joué, illustré à l'Atlas hier.
Oui.
Ils ont
donné le cratyle.
Donné le cratyle, ça devait être quelque chose d'intéressant. Plutôt que de revenir sur le cratyle ou sur un autre dialogue de Platon, il m'a semblé que ça pouvait être plus amusant et plus complémentaire de proposer un extrait de dialogue théâtral par un maître. Et lequel choisir? Alors, si mon intérêt s'est porté sur ce passage-là de Sophocle, c'est parce que ce n'est pas tout à fait un dialogue comme les autres. Voilà. Ce n'est pas simplement des gens qui se parlent. C'est un cas très très rare où une déesse parle à un mortel. Un mortel et une déesse ont un échange, apparemment d'égal à égal. Apparemment. Et leur échange a lieu sous les yeux d'un troisième larron en scène, Ulysse, voilà, qui assiste à
un inconnu pour nous, évidemment.
Voilà. Il assiste à ce dialogue et il y assiste sans y intervenir, sans rien dire et en restant invisible.
Car, ce qui est difficile pour Ulysse quand même. Hein.
Oui, mais il y tient très très fort parce qu'il craint, il ne veut surtout pas qu'Ajax le voie. Il ne faut absolument pas qu'Ajax le voie. Mais Athéna le rassure à cet égard, ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'il ne te voie pas, tu resteras invisible. Tout ce que je demande, c'est de rester là et d'assister à notre entretien, je vais te le faire voir. Et donc, en fait, Athéna, pour Ulysse et devant lui, joue un rôle, le rôle d'Athéna, le rôle d'une redoutable déesse, en train de s'entretenir avec un mortel assez fou pour s'imaginer qu'il peut s'entretenir d'égal à égal avec une déesse pareille. Voilà. Donc, c'est un dialogue, mais c'est un dialogue qui est vraiment littéralement théâtralisé au deuxième degré.
Oui, c'est vrai. C'est du théâtre dans le théâtre.
C'est déjà du théâtre dans le théâtre, exactement. Ouais. Et c'est la première pièce de Sophocle. Donc, c'est assez vertigineux.
Oui.
Voilà.
Et alors, comment vous allez vous y prendre pour travailler avec... On sait combien il y aura de personnes à cet atelier?
Apparemment, il y a 25 personnes qui sont inscrites.
C'est beaucoup, hein?
Bon...
C'est pas beaucoup pour une classe, mais pour un atelier, c'est un petit peu pléthorique.
On va voir. On va voir. Tout le monde aura sous les yeux ce document dont je parlais.
Donc tout le monde l'aura en traduction, évidemment.
Alors voilà, il y aura le texte grec. Comme on n'a pas à présumer que tout le monde connaisse l'alphabet grec, il y a sous chaque vers une petite transcription, voilà, en caractère latin. N'est-ce pas, qui permet de restituer à peu près la prononciation et qui permet de voir à quoi correspond le grec. Comme ça, on apprendra un peu l'alphabet par la même occasion. Et la troisième ligne consiste en un mot à mot. Voilà, un mot à mot absolument agrammatical,
oui.
Épouvantable, horrible, qui blessera les yeux et écorchera les bouches, mais qui permettra de mettre en correspondance, même si on n'est pas très grammairien, certains mots français avec certains mots du grec à l'étage au-dessus. Voilà, et après, c'est là qu'ensuite, on va entrer dans le dur, comme on dit, ou dans l'inconnu en tout cas, on verra, c'est là que l'atelier va commencer à se faire, sachant que si l'on transpose littéralement le grec en français, on arrive à ce résultat, à cette bouillie à peu près incompréhensible. Sachant que la situation est celle-là, sachant que le texte veut dire ceci et cela... comment vous y prendriez-vous pour exprimer cela en un français admissible, compréhensible, et même, qui sait, peut-être même plaisant, et au-delà du plaisant, jouable, tout simplement, puisqu'il s'agit de traduire du théâtre.
Oui, c'est ce qui n'est pas forcément facile.
Non.
Et alors, quel est votre but ultime? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Alors bon, on ne peut pas savoir comment les gens vont réagir, évidemment, ni ce que ça va donner concrètement. Mais vous aimeriez qu'ils repartent avec le texte. D'ailleurs, ils vont le garder précieusement, parce que je trouve que c'est vraiment une tentative appréciable d'avoir le texte grec, la traduction, comme on dit, mot à mot, et complètement à côté de la plaque. Peut-être, et puis ensuite une traduction peut-être pas plus littéraire, puisque nous cherchons du théâtre, nous cherchons quelque chose de vivant, et ils vont repartir avec, ils auront noté des choses, et vous après vous allez en faire quoi de tout ça?
Ah ben il faut que vous restiez, que vous assistiez
à
ça.
De toute façon c'est bien mon but.
Vraiment je n'en sais rien, le but, je suis très épicurien à cet égard, au sens antique du terme. Hein. Le but, c'est quand même... le but n'est peut-être pas le plaisir, mais le critère, la mesure, c'est certainement le plaisir. Je voudrais que les gens aient du plaisir à faire cet atelier. Un plaisir intelligent, un plaisir de l'intelligence, si possible. Hein. Je voudrais qu'ils en gardent un bon souvenir et qu'ils en sortent avec certaines armes, c'est beaucoup dire. D'ailleurs, pour se battre contre quoi ou qui, certains outils ou disons certaines... perspective. Les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'est une traduction. Les gens y pensent souvent en termes de fidélité ou d'infidélité. À l'expérience, on s'aperçoit que les choses sont plus complexes, qu'il ne s'agit pas simplement toujours de fidélité ou d'infidélité, mais que d'autres paramètres, d'autres critères peuvent entrer en ligne de compte. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la traduction... Ça permet de manifester de façon très concrète que les textes, dont on a peu avoir le sentiment qu'ils sont fixes, qu'ils sont figés, qu'ils sont gravés dans une sorte de marbre intemporel, une fois pour toutes, les textes sont mobiles, sont fluides, sont vivants, aussi longtemps qu'on les lit en tout cas. Voilà. Mais dès qu'il y a lecture, il y a réactivation de ce qu'il y a de vie dans un texte. Et donc, à chaque lecture va... correspondre, va répondre une sorte de rejaillissement de la vie dans le texte. Donc, les textes vivent plusieurs vies, ils vivent plusieurs existences. Et le résultat, c'est qu'un même texte, au fond, se diffracte dans ses différentes existences à travers le temps et à travers les langues. Le Sophocle du XXIe siècle n'est pas le Sophocle du XIXe, qui lui-même n'était pas, et ne peut plus, et ne sera plus jamais le Sophocle du 5e avant Jésus-Christ. Et le Sophocle grec n'est pas, ne peut pas être, et ne prétend pas être le Sophocle français, ou le Sophocle anglais, bien le sûr. Sophocle italien. Chacun propose le sien, mais cette multiplicité des Sophocles, qu'on essaye à chaque fois de restituer sous forme vivante, cette multiplicité, elle est toujours permise, possible, ou surplombée, par le plus vieux d'entre eux, le Sophocle grec. Et donc, régulièrement, on revient, pas sous son ombre, disons sous son égide, tiens, voilà.
Voilà.
Hein, puisqu'on est entre nous. On revient sous son égide, on le consulte, un peu comme on consulterait un oracle, voilà, et l'oracle nous donne sa réponse. Ce sont toujours des mots grecs. On essaie de les faire résonner, on essaie de les entendre, et on se rend compte que ce n'est pas simple, et qu'il y a sans doute d'autres possibilités, d'autres vies, d'autres perspectives derrière, d'autres personnes qui proposeront d'autres choses, et que donc, et que le texte s'enrichit de chacune de ces
Exactement.
Étapes de lecture. Voilà. Ça, c'est quelque chose que la traduction permet. Permet de rendre, parce que c'est toujours comme ça, la lecture, mais là, la traduction, ça permet de le faire vraiment toucher du doigt de façon très très concrète.
Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a des retraductions. Je pense, moi, je travaille en ce moment sur Martial. Il était urgent qu'il y ait, en ce moment, aux Belles Lettres, c'est ce qui se fait, une nouvelle traduction, parce que celle qui précédait ne colle plus à notre époque.
Oui, les critères moraux,
le vocabulaire.
Oui, bien sûr, ou la capacité, bon, le latin, c'est beau, brave l'honnêteté, hein, surtout Martial. Peut-être que le français du XXIe siècle se permet de la braver aussi plus, hein, On peut être plus direct, oui. on peut être plus cru.
Exactement. Et puis, voilà, je pense que notre époque, justement, on ne va pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais colle très bien au personnage de Martial qui était extrêmement moderne.
Et ce
qu'on va retrouver avec Sophocle, j'imagine, tout à l'heure.
Ah, est-ce que Sophocle est moderne? Sincèrement, je ne me suis jamais posé la question en ces termes. Pour moi, il reste très énigmatique, très étrange. Pour moi, c'est le plus étrange des trois grands tragédiens. Échille...
Et le plus humain aussi, hein.
Mais c'est très mystérieux. Et on a le sentiment d'entrevoir qu'Échille avait quand même certaines convictions démocratiques, disons. On a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, on a la conviction que Euripide était un... vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un intellectuel, qu'il était passionné par les questions qu'abordaient les sophistes, les philosophes. On s'imagine très bien Euripide prenant des notes dans les dîners en ville ou dans les banquets. Mais Sophocle, on peut prendre ses traductions, on peut prendre ses textes, on les retourne dans tous les sens, mais au fond, quelle était son opinion sur la question?
Oui, voilà, où est-il exactement? Oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Et en fait, enfin, c'est mon impression à moi. Je suis en train de préparer une traduction pour Garnier Flammarion de l'intégralité du théâtre de Sophocle. J'en suis à la préface, ça y est. J'ai essayé de présenter Sophocle. Je suis en train d'essayer de présenter Sophocle au lecteur. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal. Parce que si on me demande ce que Sophocle pensait de ceci ou de cela, je suis bien obligé de confesser que je n'en sais rien. Et c'est tellement systématique chez lui que je me demande si ce n'est pas ce qui fait finalement son charme et si ça ne fait pas vraiment partie de son projet, mais de son être esthétique même. Sophocle, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dicter quoi que ce soit. Ce qu'il va vous proposer, ce sont des... Ce que Umberto Eco appelait des œuvres ouvertes.
Oui.
Des œuvres ouvertes. Dans Antigone, est-ce que Créon a complètement...
Oui, je pensais en Antigone.
Tort,
oui, oui. Hein? Je suis tout à fait d'accord. J'ai toujours pensé ça en lisant Antigone. C'est ça qui en fait sa richesse, d'ailleurs.
Ah, oui, oui.
Eh bien, nous allons dire maintenant place à l'atelier. Merci beaucoup.
Ah oui, effectivement.
Merci beaucoup, Daniel. Je vais me régaler à l'atelier, j'en suis sûre.
Merci à vous.
Je me suis effectivement régalée à cet atelier de traduction dont vous trouverez un écho dans l'émission suivante, car ici, c'est le premier volet d'un diptyque consacré à ces assises de la traduction. Je remercie Julie Duté pour m'avoir invitée à ce colloque. Je remercie donc l'association Atlas, Association pour la promotion de la traduction littéraire. Appuyez sur le CITL, Collège international des traducteurs littéraires, Arles. À la semaine prochaine.